À Rencontre spirituelle, aujourd'hui, il sera question d'une sainte extraordinaire, Sainte Catherine de Sienne. Sainte Catherine de Sienne qui est très réputée, qui est parfois un peu discutée dans de nouveaux ouvrages et qui demeure quand même docteur de l'Église, telle qu'elle a été nommée par le pape Paul VI. C'est une femme de 33 ans, elle est morte toute jeune, 33 ans, en 1380. C'est une grande mystique. C'est une sorte de laïque, en fait, puisqu'elle était membre du tiers-ordre dominicain. C'est une personne qui est née à Sienne, évidemment, Catherine de Sienne, une Italienne, une grande mystique. Elle a tant dialogué avec le ciel, on pourrait dire, qu'elle détient plusieurs records assez singuliers. On va commencer par les records. C'est intéressant parce que c'est absolument fascinant. D'abord, elle est la 25e et dernière enfant d'un couple siennois de commerçants. Tous nés de la même mère. Elle était la 25e. Et en plus de ça, elle a eu une sœur jumelle qui s'appelle Giovanna, mais qui meurt prématurément. Elle aura même un frère adoptif. Une famille incroyable, Tommaso della Fonte, qui va devenir dominicain et qu'elle aimera beaucoup. Ce seront de grands compagnons d'estime religieuse, comme il s'en trouve tout au long de l'histoire de l'Église. Pensez à Saint Jean de Chantal et Saint François de Sales, et ainsi de suite. Hein? Saint François d'Assise et Claire d'Assise, etc. Alors, c'est difficile de trouver une famille plus nombreuse. 25 et même 26 enfants. Et il faut dire qu'il y en a plusieurs qui sont morts. Deuxièmement, on peut dire que cet enfant prodige a connu une enfance merveilleusement précoce. Elle était extrêmement, comment dirait-on, pas surnaturalisée, mais elle baignait dans le surnaturel. Elle a eu sa première vision dès l'âge de 7 ans, et dès l'âge de 8 ans, oui, 8 ans, elle se consacre à Dieu. Je vous en reparlerai tout à l'heure. De plus, on peut dire que de sa 20e année jusqu'à sa mort, à 33 ans, donc durant 13 ans évidemment, celle qu'on appelle l'ensorceleuse de foule groupe autour d'elle toute une bande de gens, dont des gens très remarquables, qu'on appelle la Belle Brigade. C'est un ensemble hétéroclite d'admirateurs enthousiastes qui l'acclament. Alors évidemment qu'il y a des moqueurs, il y a toujours des moqueurs de toute façon, qui annoncent la parade. Hein? Ils disent « Voici venir la reine de Fontebranda ». Fontebranda, c'est l'endroit où son père avait son commerce. Là. C'était un teinturier. « Voici venir la reine de Fontebranda avec ses encatérinés. » Ses encatérinés. C'est un jeu de mots, évidemment. Quatrièmement, c'est une stigmatisée qui est marquée des cinq plaies de la Passion. Ça survient, ça, 5 ans avant sa mort, en 1375, à Pise. Elle obtient d'ailleurs du Seigneur que sur son corps, ses points douloureux restent invisibles. Et elle ne révèle cette chose très étrange qu'à son confesseur. Il y a plusieurs mystiques qui ont prétendu comme ça, qui ont affirmé avoir eu des stigmates non visibles. Le cinquième record, ou si on peut dire, c'est que c'est une quasi-illettrée. Elle ne parle ni latin ni français, mais seulement le toscan, parce qu'elle est née en Toscane, dans le nord-ouest de l'Italie. Le toscan des basses classes, même. Le toscan populaire, quoi. Puis pourtant, elle sera l'unique docteur du 14e siècle. Il n'y a pas d'autre docteur de l'Église au 14e siècle. Et la suivante de la liste, là, c'est Thérèse d'Avila, une autre femme qui va mourir à la fin du 16e siècle, elle. Donc, deux femmes docteurs successives. Et l'Italienne entre au ciel 200 ans avant l'Espagnol d'Avila. Et enfin, le sixième record, si on peut dire, de l'avis des savants, de ceux qui ont beaucoup étudié sa vie, si extraordinaire que ce soit, Catherine pourrait arborer une médaille d'or assez glorieuse, parce que c'est un record fantastique, que probablement, malgré sa courte vie, elle est morte à 33 ans, je vous le rappelle, c'est la femme qui a exercé le plus d'influence visible sur l'Église, une influence énorme sur l'Église. Alors, on va arrêter ça là. On peut passer maintenant. Est-ce qu'il faut peut-être surtout savoir au sujet de Sainte Catherine de Sienne? En résumé, quoi. Elle est tout d'abord la petite dernière d'un teinturier. En 1347, c'est pas drôle dans la région de Toscane, au nord-ouest de l'Italie. Ça fait pitié. Parmi les 9 provinces de la Toscane, la petite ville de Sienne, chef-lieu local, qui est située, vous êtes peut-être allé à Sienne en allant en Italie, c'est à 40 kilomètres au sud de Florence. Et Sienne semble spécialement éprouvée. Les administrateurs établissent un bilan, à la fois politique et économique. Écoutez ça, c'est en quelques mots, une ligne, quoi. Commerce en baisse, famine et peste imminente, vie chère, morale relâchée. Bon, ça ressemble à ce qui se passe de nos jours. Mais pourtant, le teinturier Jacopo Benincasa semble prospérer, lui, le père de Catherine. Depuis l'an passé, 1346, il est locataire d'une grande maison sur la Via dei Tintori, la rue des teinturiers, près de la Fonte Branda. Fonte Branda, c'était le surnom de Catherine, je vous ai dit tout à l'heure, c'est un bassin qui fournit abondamment la ville en eau fraîche. Le teinturier, donc, de laine, y fait fortune. Il est associé à son fils aîné, d'ailleurs. Et malgré la mortalité infantile effarante, ils ont perdu 11 enfants, les Benincasa. Mais les 14 survivants de la famille Benincasa se rassemblent dans la maison de campagne qu'on appelle la Canonica. Et dans cette ambiance chaleureuse, la dernière enfant qui est arrivée tardivement, Catherine, qui est née le 25 mars, tiens, le jour de l'Annonciation, 1347, de ses parents qui avaient plus de 50 ans. Et elle va grandir, d'abord choyée de tous, et bientôt la persécution va commencer. Ça ne fait qu'entraîner un retour vers Dieu, la persécution. La mère, qui est la fille d'un matelassier poète, c'est assez curieux, un matelassier poète, oui, qui s'appelle Piagente. Sa mère, donc, serait, selon les gens du quartier, une braillarde. On se plaint d'elle, d'ailleurs. C'est qu'on la voit souvent discuter avec les lavandières, là. Vous savez, celles qui lavent leur linge en public, dans des espèces de piscines, là. C'est une grosse dame, aux mains sur les hanches, qui gesticule souvent, qui s'emporte et qui ronchonne, dit-on. Et pourtant, c'est une brave personne. Vous allez voir. Très vite, la mère et la fille s'affrontent quand même. C'est une dispute qui va durer assez longtemps. Catherine est autant portée vers le mysticisme que sa mère l'est pour le commérage. Elles sont archi différentes. Ça commence en 1354. Catherine, qui est toute fillette, n'a que 7 ans. Elle a tout juste l'âge de raison. Elle raconte naïvement à sa mère une vision dont elle vient d'être favorisée. Elle dit à sa mère, « Notre Seigneur, coiffé d'une tiare. » Les jeunes, vous savez ce que c'est une tiare, hein? Les papes en portaient autrefois 3 couronnes l'une par-dessus l'autre. Une tiare. Notre Seigneur, coiffé d'une tiare, m'est apparu au sommet de l'église des Dominicains de Sienne, qu'il était beau entouré des apôtres Pierre, Paul et Jean. Alors sa mère lui demande, est-ce qu'il t'a parlé? Elle dit, non pas, m'a fait signe de venir à sa suite. Évidemment, sa mère s'interroge et prend Catherine pour une simulatrice. Une petite faux-folle, quoi. Qui s'imagine des choses. Alors, les excentricités continuent. La petite Catherine s'engage à 7 ans, 8 ans, par un vœu de virginité. Est-ce que c'est concevable? Est-ce que ça a du bon sens, un vœu de virginité à cet âge-là? De plus, cette jeune Catherine fait part de sa vocation, aussi précise que précoce, et elle dit « Je voudrais devenir dominicaine, pour prêcher la religion et convertir les hérétiques. » Oh, sans doute les Vaudois, puis en particulier un dont elle s'est occupée, Bernardo Visconti. L'entourage passe par-dessus ses souhaits de se faire dominicaine, mais on s'interroge avec un brin d'anxiété. On se demande jusqu'où vont conduire ces pieuses folies, notre petite sœur. Alors, lorsque sa fille atteint ses 12 ans, en 1359, la mamma décide d'en finir avec les extravagances. Alors, elle décide, on va marier Catherine, puis les pieusetés ridicules vont cesser. Le lancement de la petite dans le monde sera réalisé par sa sœur préférée, Bonaventura. Bonaventura conduit sa cadette au bal, après l'avoir parée de bijoux et revêtue d'une belle toilette, mais bientôt, cependant, notre pieuse Catherine se reprend et, conseillée par son frère adoptif, le Tommaso della Fonte, qui est devenu prêtre et dominicain, elle se coupe les cheveux puis elle se coiffe d'un voile blanc. La mère décide donc de briser cette résistance passive. Elle arrache le voile symbolique. Puis elle déclare à Catherine, « Tes cheveux repousseront, têtu, et tu auras un mari. » Dans le but de marier sa fille, la mamma veille au grain. Elle veut étouffer dans l'œuf la moindre idée de révolte, interdiction de coucher sur un banc, pas d'instrument de pénitence, et bientôt, la benjamine de la famille se trouve réduite au rôle de servante et de domestique. De la sorte, au moins, tu sers ta famille au lieu de rêver, lui dit sa mère. Mais jusqu'où vont aller les persécutions de la part de sa mère, hein? Cette opposition, ne l'oublions pas, forme le caractère décidé de Catherine de Sienne. Et Catherine de Sienne rencontre un jour des femmes pieuses et songe à se joindre à elles. Ce sont des mantellate, des tertiaires dominicaines. Ça vient, mantellate, du mot italien, porteuse de mantello, un manteau. C'est une communauté religieuse siennoise, du tiers-ordre dominicain. Avant de continuer, je voudrais vous signaler que, souvent on pense que Catherine Tecacuita a été appelée ainsi en l'honneur de Sainte-Catherine d'Alexandrie, hein? Et on croit que, sérieusement, après des recherches, que c'est Catherine de Sienne, la patronne de Catherine Tecacuita. Petite anecdote en passant, quoi. Alors, elle décide d'entrer chez les Mantellate, elle est jeune, hein? On reconnaît les mantellate, les religieuses, bon, enfin des religieuses, oui, du tiers-ordre, de Sienne, dominicains, de l'ordre dominicain. On les reconnaît à leurs vêtements caractéristiques. Elles ont une robe blanche, ceinture de cuir, voile blanc, manteau noir. Comment Catherine, persécutée par sa famille, rencontre-t-elle ces pieuses dames, qui en principe ne reçoivent que des veuves? Alors, c'est un beau matin de 1362, Catherine réunit les siens, puis elle dit, « Venez tous, je vous prie, j'ai une importante communication à vous faire. » Alors, le cercle familial se trouve bientôt au grand complet. On est quelque peu inquiète de cette convocation plutôt insolite de la part d'une toute jeune, comme ça. Et c'est alors que cette jeune mystique de 15 ans se met à leur raconter ce qui suit. Encore une vision. Cette nuit, Saint-Dominique m'est apparu en songe. Dans l'habit noir et blanc qu'il me propose, je retrouve avec joie le vêtement des mantellate de notre petite ville, de Sienne. Pour obéir à ce rêve, je désire entrer dans cette congrégation. Alors, au nom de tous, en sa qualité de chef de famille, son père, maître Jacopo, le teinturier, l'a fait connaître sa décision. Cette inspiration de notre cher Benjamin lui vient sûrement du ciel, que nul donc ne s'avise désormais de la contrarier, elle intercédera pour nous tous. Nous allons donc, dès demain, lui ménager en guise d'oratoire une chambre au-dessus de la cuisine. C'est une attitude surprenante, mais à l'époque, ça demeure tout à fait plausible. La foi C'est pas comme aujourd'hui, quoi. Autre époque, c'est une autre époque. On organise donc la chambrette pour Catherine, qui est toute jeune, 15 ans. L'année suivante, son intervention, de sa maman, qui s'appelle Lapa, hein, L-A-P-A, c'est un curieux prénom, qui est appuyée par le père Bartolomeo Montucci. La prieure des Mantellate accueille la postulante, celle qui demande à entrer, Catherine de Sienne, par privilège spécial. Comme Thérèse de Lisieux, au siècle dernier, est entrée par privilège spécial à 15 ans, au Carmel de Lisieux. Elle entre donc dans ce tiers-ordre dominicain qui est réservé aux veuves. Qui aurait pensé à ça? Or, c'est la fille du teinturier siennois qui a fait connaître dans le monde entier cette congrégation de pénitentes. Incroyable, fantastique. Comme la petite carmélite qui a fait connaître le Carmel dans le monde entier, elle qui n'avait que 15 ans, qui est morte à 24 ans. Celle-ci est morte à 33 ans. Donc, c'est dans ces conditions pour le moins surprenantes et sans vraiment quitter le monde que cette jeune mystique devient, pour ainsi dire, priante perpétuelle malgré tous ses voyages à travers l'Italie et la France. Elle apprend à lire pour déchiffrer péniblement quelques ouvrages spirituels. Est-ce qu'elle a reçu la faveur du mariage mystique avec le divin maître Jésus? C'est certain, mais l'épreuve visite cette âme exceptionnelle, puisque on peut dire que autour des amis de Dieu, hein, Satan rôde, c'est dans la première épître de Saint Pierre. Hein. Le Satan est comme un lion qui cherche à dévorer, hein, dit Saint Pierre. Il tente la recluse par toutes sortes d'images. Des imaginations, quoi, abominables. C'est si éprouvant que Catherine en gémit lamentablement, hein. Elle est à l'âge de la puberté, de tout ça, du changement. Elle est jeune femme. C'est de cette période que date le dialogue sublime rapporté et commenté par tous les biographes depuis Fra Tommaso, son frère adoptif, jusqu'au père Garrigou-Lagrange et d'autres encore. On peut admirer, on peut goûter avec beaucoup de respect en nous mettant à l'écoute de ce dialogue qui nous rappelle que quand on souffre, Jésus est là. Catherine dit, « Bon et très doux Jésus, où étiez-vous donc, tandis que mon âme subissait de tels tourments? J'étais au fond de ton cœur. En effet, je ne m'éloigne jamais du cœur de mes amis. Quoi donc, Seigneur, vous étiez dans mon cœur, au milieu de toutes ces horreurs et ces visions impures? Ces horreurs te causaient-elles joie ou peine? Ah, je les exécrais. Elles me contristaient au tréfonds de l'être. Ma chère Catherine, j'étais dans ton cœur. De même que j'étais sur la croix, dans un état de souffrance et de bonheur. » Et à partir de cette profonde union à Dieu, l'action tout à la fois, on pourrait dire mystique et politique de Catherine, va constituer pendant plus de 10 ans un phénomène d'Église. Vous allez voir, vous le connaissez peut-être, je vous en ai déjà parlé de Catherine de Sienne de toute façon. Voyons-en 3 aspects. D'abord, un apostolat régional autour de Sienne. Puis, aussi à travers toute la Toscane, une grande région de l'Italie, dans le nord-ouest, comme je vous ai dit au début de l'émission. Puis en second lieu, le moyen rare de la famille spirituelle itinérante. Elle se forme une espèce de famille spirituelle itinérante dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est une sorte de mission, de prédication populaire, faite à pied, là, tout le monde ensemble. Puis enfin, il y a la transformation de la papauté qu'elle obtient, elle, cette fille ignorante qui ne sait que Dieu seul. Catherine est sublime dans ses démarches auprès du pape. Elle transforme la papauté, oui, c'est absolument phénoménal. La fille, donc, du teinturier exerce donc d'abord son rayonnement au milieu des siens, la sienne. Une mystique si attentive à l'environnement immédiat, alors elle s'occupe tout d'abord de sa famille, les Benin Casa, ses proches. Sa belle-sœur, Lisa Colombini, devient son amie et sa protégée. Elle soutient son frère Giacomo. Quel magnifique exemple filial, admiré par beaucoup. Le 22 août 1368, à cette date, Catherine, au chevet de son père, alors sur son lit d'agonie, obtient pour lui une faveur insigne. Il entrera directement au ciel, sans passer par le purgatoire. Alors la vieille mama, qui admire maintenant sa dernière née, s'est réconciliée. Elle répétera jusqu'à sa mort à 89 ans, « Catherine nous bénit, et elle nous protège tous. » Oui, elle nous protège tous. Alors Catherine devient la patronne de Sienne. Elle se montre secourable à tous, et aussi, évidemment, aux tiers-ordres dont elle est membre. Pendant longtemps, elle secourt une consœur Mantaletta, la pauvre Andrée, qui meurt d'un cancer. Elle aide les miséreux. Elle ramène les pécheurs à Dieu. Dans sa Toscane, il y a des rancunes, puis il y a des luttes. Il y a toujours eu des rancunes et des luttes. Quel c'est triste. Alors le conseil de la ville de Sienne, troublé par toutes sortes d'arrivistes sans scrupules, change sans arrêt de membres à l'administration de la ville, change de politique. Ça ressemble à Montréal ces jours-ci. Et après le gouvernement des neuf, on connaît celui des douze, auxquels succèdent les réformateurs. Entre ennemis réconciliables, il y a une vie qui ne pèse pas lourd. Par exemple, Nicolas Tulleau. Nicolas Tulleau, c'est un jeune aristocrate de Pérouse qui est condamné à mort pour un motif d'une futilité. Il aurait mal parlé des réformateurs de Sienne, imaginez donc. Alors Catherine, écoutez bien, l'accompagne au dernier supplice. Et, imaginez une jeune femme. Elle reçoit sa tête quand elle tombe sous la hache du bourreau. Il faut avoir du courage pour poser un tel geste. Il faut avoir un amour du prochain. Il faut avoir une foi profonde, un respect du corps humain. Temple de la Trinité. Mystère insondable qu'est le corps, façonné par Dieu dans le sein de nos mères. Et qui grandit et survit comme ça pendant X années, elle sait. Elle reçoit la tête de Nicolas Tulleau quand elle tombe sous la hache du bourreau. On ne peut qu'être plein d'admiration pour le courage extraordinaire de Sainte Catherine de Sienne. Aujourd'hui, il est question de Catherine de Sienne, docteur de l'Église, morte à 33 ans. En somme, qu'on a pu le constater depuis le début de l'émission, Catherine de Sienne a une nature de flamme. Elle devient chef de clan spirituel, grâce à sa belle brigade dont je vous ai parlé au tout début. Qu'est-ce que c'est que cette belle brigade? Il s'agit de supporters, si on peut dire, enthousiastes, qui vont sur les routes à travers les villes et villages. Tous ensemble, ils forment un cortège plutôt coloré, disons de missionnaires itinérants. Le groupe, qui grossit constamment, puis il y a de nouveaux pèlerins, part donc de Sienne. Savez-vous qu'il rayonne à travers l'Italie et jusqu'en Provence? Oui, au sud de la France, en Provence et au comtat vénétien. On entend souvent ça, le comtat vénétien. Parfois, on se demande ce que c'est. Comtat, ça vient peut-être du provençal. Ça veut dire comté, simplement. Et aujourd'hui, c'était une possession pendant des siècles du pape, ça, le comtat vénétien. Jusqu'à la Révolution française. Et on appelle ça aujourd'hui le Vaucluse. Alors, autour de cette jeune inspirée qu'est Catherine de Sienne, qui préconise une sorte de réarmement moral, se rassemble, comme vous voyez, une foule enthousiaste et bigarrée. On peut en faire la description de ce cortège. Ça existe. En tête, s'avance une vingtaine de mantellate, dont je vous ai parlé tout à l'heure, les tertiaires dominicaines, dans leurs costumes. Elles sont donc reconnaissables à leurs costumes blancs et noirs. Ensuite viennent les fervents. Qui sont les fervents? Ce sont des hommes et des femmes, religieux et laïcs, jeunes et vieux, qui répètent constamment des litanies. Ce sont les priants, quoi. On montre du doigt un trio remarquable de dominicains, qui sont les confesseurs de notre héroïne Catherine de Sienne. Il y a là Tommaso della Fonte, Raymond de Capoue, qui a écrit sa vie, et Bartolomeo di Domenico. Les trois secrétaires, si on peut dire, recueillent, composent, retouchent le journal spirituel de la mystique de Sienne. Puis on aperçoit des savants qui savent à la fois écouter, diriger, transmettre. Alors il y a là le Florentin Barduccio Canigiani, suivi de près par les deux érudits siennois Étienne Macconi et Neri Pagliaresi. Un observateur de l'époque écrit « Les classes sociales se trouvent mélangées dans ce groupe. » Puis un familier qui précise « Constatez vous-même, regardez, au premier rang, cet homme élégamment vêtu, c'est Gabriele Piccolomini, gentilhomme de renom. Un peu plus loin, reconnaissez-vous André Sanni, cet artiste réputé? Et celui qui ferme la marche, c'est Cristoforo di Gano, le financier. » Alors, c'est tout un monde. Et lorsque s'éloigne cet étonnant cortège, un spectateur bien renseigné précise pour ses voisins ébahis, « Savez-vous que ces gens, méditatifs et priants, commentent ensemble la Bible, je répète, la Bible, ils commentent ensemble la Bible, et font un partage d'évangiles? » On est au XIIIe siècle. Il n'y a pas de protestants encore, pour ainsi dire. Peut-être les Vaudois, peut-être, en Italie. Leur chef de file de 25 ans, dit ce spectateur, leur chef de file de 25 ans, c'est Catherine de Sienne, il l'appelle Dolcissima Mamma, très douce maman. Avec elle, qui s'appelle Catherine, il scrute les mystiques. Il disserte à partir de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, mort en 1274. Il déclame la Divine Comédie de Dante Alighieri, mort en 1321. Et avec eux, les jaloux en sont pour leurs frais, nous dit le spectateur. Médisance et calomnie ne sauraient atteindre Catherine, la très pure Mantaletta. Médisance et calomnie, toujours. C'est donc puissant dans l'Église, ça. Saviez-vous que Sainte-Catherine de Sienne, avant d'avoir 30 ans, oui, avant d'avoir 30 ans, était déjà conseillère des papes, hein? Je vous en ai glissé un mot tout à l'heure. Mais c'est avant 30 ans. Imaginez une jeune fille dans la vingtaine, conseillère des papes, hein? La période historique que je voudrais évoquer se trouve attristée puis ternie par ce qu'on appelle, dans l'histoire, la seconde captivité de Babylone. C'est une périphrase qui désigne le séjour des souverains pontifes, des papes, en Avignon, pendant 70 ans, soit de 1309 à 1378. Pour y mettre fin, Catherine fait tout ce qu'elle peut. Elle se fait militante, et voici quelques dates, quelques noms, au cours de ce 14e siècle. Au début de l'année 1371, Catherine n'a alors que 24 ans, elle écrit à Grégoire XI. Elle écrit au pape à 24 ans. Des lignes d'une stupéfiante hardiesse et franchise. N'oubliez pas qu'il s'agit de Sainte Catherine de Sienne, 24 ans, je le répète, docteur de l'Église depuis 1970. En somme, elle dit au nom de Jésus, quittez donc Avignon. Voici ce qu'elle dit. Je vous lis simplement quatre lignes, quoi. Écoutez donc, Saint-Père, les paroles que vous adresse Jésus-Christ. Alors, elle ouvre les guillemets, elle met ces paroles-là dans la bouche de Jésus-Christ. Votre cour mondaine ruine ma céleste cour. presque toutes les âmes qui fréquentent vos palais, vous les expédiez dans la géhenne du feu, dans l'enfer, quoi. Revenez donc à Rome, à votre siège, le plus tôt que vous pourrez. » On peut lire ça dans les Révélations, livre 4, chapitre 142. En somme, elle se permet de dire au pape, là, au nom de Jésus, quittez donc Avignon, puis revenez à Rome. Et 5 ans après, le 18 juin 1376, elle n'a pas encore 30 ans. Cette visionnaire arrive en Avignon, escortée par sa famille, il y a, ça fait cette espèce de groupe, là, effervescent. En 3 mois d'action audacieuse, l'ascendant de sa parole, inspirée, parole inspirée, puis de son regard de feu, obtient ce que tant d'autres ont réclamé en vain. Personne réussissait à transformer l'Église et la papauté. Le 13 septembre suivant, Grégoire XI enfin quitte la cité des bords du Rhône, Avignon, et il compte sur Catherine pour le réconforter. Curieux, hein? Malheureusement, le décès de Grégoire XI semble remettre tout en question. Il est le 201e pape, lui. Dès l'élection d'Urbain VI, Catherine exhorte ce nouveau pape, le 202e, à réformer l'Église. Et elle s'offre en victime pour la paix. Et bientôt appelée à Rome, elle habite Via di Papa. Curieux, hein? Elle est obéie, suivie et respectée. Celle qu'on appelle la douce maman, malgré son jeune âge, dirige la navicella, la nef de l'Église. Imaginez, 29-30 ans, elle dirige la navicella, la nef, le bateau de l'Église, le navire. Cette fille modèle meurt à 33 ans sous la bénédiction de sa vieille mère. Cette conseillère des papes et des rois, entrée en politique, elle a excellé dans tout ce qu'elle a entrepris. L'humilité, qui est sans doute sa vertu majeure, cette fille si avisée, nous la recommande par une pensée, l'humilité, que le grand Pascal, s'il l'a connue, a su aimer. Voici les paroles. Personne n'est si éclairé qu'il puisse se passer de la lumière des autres. Ceux qui l'écoutaient sont unanimes pour reconnaître l'éloquence naturelle admirable de cette femme obscure qu'est Catherine de Sienne, grande mystique, pionnière de la dévotion au Sacré-Cœur. 2 recueils en témoignent, surtout un, les lettres et le dialogue. Ça se trouve en librairie, ça. Et dans les bibliothèques, les lettres de Catherine de Sienne, et surtout ses dialogues, le dialogue. On a donc de Sainte Catherine de Sienne 373 lettres. C'est peu, mais c'est beaucoup. Quiconque prend soin de lire en effet ses lettres découvre, quoi, une âme élevée, désireuse de servir l'Église, sans l'ombre d'une prétention, mais de tout son cœur. Il n'y a pas de prétention chez elle dans son esprit, qui est pris d'une certaine révolte au fond, mais c'est pas une vraie révolte, c'est un désir de purification, de transformation, de faire du bien, quoi. À chacun, elle s'adresse avec des mots qui atteignent le cœur. Les papes ou les cardinaux, les évêques ou les rois, les marchands ou les roturiers en prennent d'ailleurs pour leur grade, hein, si l'on peut dire. Puis, ces paroles leur sont assénées de façon franche. Hein. Elles ne cachent pas les vérités fondamentales, les vérités premières, comme on dit. Hein. L'exorde habituel situe Catherine de Sienne puis son genre. Ça commence souvent comme ça. « Moi, Catherine, servante et esclave des serviteurs de Jésus, esclave des serviteurs de Jésus, je vous écris au nom du précieux sang de notre Seigneur avec le désir de vous voir noyé dans son sang. » Qu'est-ce que ça veut dire, se noyer dans son sang? C'est-à-dire noyé dans son âme, dans son amour. Vous savez, je vous le dis souvent, le sang dans la mentalité judéo-chrétienne, c'est l'âme, l'amour. Noyé dans son amour, noyé dans son sang. Et voici 3 extraits qui font apparaître les qualités de style de Sainte Catherine de Sienne. Premier extrait, au pape. Ça se résume comme suit, très Saint-Père, remplacer les mauvais pasteurs par des bons. Voici ce qu'elle dit. Dans le jardin de la Sainte Église, vous devez d'abord arracher les fleurs puantes, gorgées d'immondices et de cupidité, enflées d'orgueil, c'est-à-dire les mauvais pasteurs et recteurs qui souillent vos parterres. Vous, notre gouverneur, employez votre puissance, à éliminer ses fleurs vénéneuses. Jetez-les dehors pour qu'ils n'aient plus à gouverner les autres, mais qu'ils apprennent à se gouverner eux-mêmes en bonne et sainte vie. Plantez à leur place, dans ces mêmes jardins, des fleurs odoriférantes, pasteurs et prélats, qui soient de vrais serviteurs de Jésus-Christ, attentifs à l'honneur de Dieu et au salut des âmes. C'est une épître, une lettre qu'elle écrit à Grégoire XI. Voici un deuxième extrait, où elle dit qu'il faut nommer de bons cardinaux. Elle écrit « J'ai entendu dire, très Saint-Père, que vous avez créé des cardinaux. Oh, je crois à ce propos qu'il serait de l'honneur de Dieu et de votre avantage que vous preniez soin de ne promouvoir que des hommes vertueux. Si l'on fait le contraire, ce sera au grand déshonneur de Dieu et au grand malheur de la Sainte Église. Alors je vous en prie, faites courageusement et dans la crainte de Dieu ce que vous avez à faire. » C'est encore à Grégoire XI qu'elle écrit ça. Et voici un troisième extrait, c'est une lettre au cardinal de Lune, futur antipape. Oui, un futur antipape, Benoît XIII. Elle lui demande de faire la vérité, monseigneur. Elle n'y va pas de main morte, hein. Elle s'adresse à quelqu'un qui va devenir antipape. C'est dans le sang du Rédempteur que nous connaissons la vérité à la lumière de la très sainte foi qui éclaire l'œil de l'intelligence. Et dans ces conditions, l'âme s'embrase et se nourrit dans l'amour de cette vérité. Par amour du vrai, elle préférerait la mort au mensonge. Elle ne cache pas la vérité quand il est temps de parler, car elle ne craint pas les puissants. Elle ne craint pas de perdre la vie puisqu'elle est disposée à la perdre, pour témoigner de ce qu'elle estime authentique. La vérité, monseigneur, rabroue à haute voix, car elle a pour compagne la sainte justice, cette perle précieuse qui doit briller en toute créature, mais surtout chez un prélat comme vous. La vérité se tait quand il le faut. Par ce mutisme même, elle crie par la patience. Oh, cher père, elle l'appelle cher père, passionnez-vous en faveur de la vérité. De la sorte, vous deviendrez une colonne dans le corps mystique de la Sainte Église. Elle s'adresse à un cardinal, le cardinal de Lune, futur antipape Benoît XIII. Et voilà donc trois aperçus maintenant des lettres de Catherine de Sienne. C'est ce que je viens de vous lire. Et elle a aussi laissé le dialogue, c'est ça. Je voudrais vous parler du dialogue, parce que d'après Raymond de Capoue, qui est mort en 1399, puis il est témoin appelé au procès de canonisation, il est possible de considérer cet ouvrage, le dialogue, comme le recueil des propos que Catherine tenait à ses familiers. Et c'est très intéressant, c'est passionnant. Je viens de vous dire qu'elle a laissé, Catherine de Sienne, le dialogue. De quoi s'agit-il? Ce dont, comme j'ai dit, peut-être un recueil de propos. Hein? Elle l'a dicté à l'âge de 31 ans, en 1378, à ses disciples. Et parmi ceux-ci, bien, il y avait Cristoforo di Gano Guidini, qui en polit le texte, y affine la langue, et Stefano Macconi, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui la suivait aussi, fournit le revu et le corrigé du texte. Hein. C'est toujours réédité, ça. Puis en exergue, lors de la première édition, en 1472, on place souvent l'avertissement de Jésus à Catherine, « Sache, ma fille, que je suis celui qui est, alors que toi, tu es celle qui n'est pas. » C'est très dur, comme... mais c'est vrai, au fond. Mais c'est très dangereux de dire ça. Faire attention. Au total, cette mystique vécue présente, quand on lit ça, là, une véritable théologie de la connaissance religieuse. Celle qui dicte, au fond, ses souvenirs sur ses entretiens avec Jésus, Catherine de Sienne, pardon, manifeste une sûreté doctrinale étonnante. Ça va toujours en se développant en images une grande richesse, puis en symboles. Puis pourtant, elle a une stupéfiante activité apostolique en même temps. Voici un petit aperçu de ce fameux dialogue, donc, de Sainte Catherine de Sienne, docteur de l'Église. Elle dit, mettons, Dieu et le prochain, c'est tout un. Voici le texte. « Il n'est pas de vertu, et pareillement de défaut, qui ne s'exerce pas le moyen du prochain. Il n'est pas de vertu et pareillement de défaut qui ne s'exerce par le moyen du prochain. » Si quelqu'un ne m'aime pas, moi, Jésus, il n'aime pas non plus le prochain. Et ne l'aimant pas, on ne le secourt pas. Et du fait même, on se cause du tort. Or, toute assistance prêtée au prochain doit procéder de la dilection qu'on lui porte par l'amour de moi. Un deuxième passage, c'est, il y a trois approches de la foi. Il est dit au chapitre 29, « La foi, c'est une lumière que nous avons reçue par le baptême et qui nous montre la route pour atteindre la vie éternelle. » Au chapitre 45, il est dit, « La foi est la pupille de l'œil de l'intelligence. Sa lumière fait discerner, connaître et suivre la voie et la doctrine du Verbe incarné. Sans cette pupille, la vision est impossible. L'âme ressemblerait alors à un homme qui aurait des yeux, mais dont la pupille serait recouverte d'un voile. L'intelligence est l'œil de l'âme. La pupille de cet œil, c'est la foi. » Puis au chapitre 60, c'est « La foi est l'âme de l'apostolat. Il en est comme d'un vase que l'on remplit à la fontaine. Si on le retire de la source pour boire, il sera bientôt vide. Si au contraire on le tient plongé dans la source, on peut toujours y boire, car il demeure toujours plein. » Puis, il y a aussi un texte assez étonnant. Il y a cinq sortes de larmes. C'est assez beau, sur le chapitre 88. Tout d'abord, dit Jésus, j'évoquerai pour toi les larmes de l'homme pervers. Ce sont des larmes de damnation. Les deuxièmes larmes sont des larmes de crainte. Ceux qui les versent ne sont conduits que par la peur du châtiment dû au péché, puis en pleurs d'épouvante. Les troisièmes larmes sont de ceux qui, libérés du péché, pleurent avec douceur et commencent à me servir. Imparfaits aussi sont ces pleurs. Les quatrièmes larmes sont de ceux qui, parvenus à la perfection de la charité envers le prochain, pleurent sans aucun intérêt personnel. Et enfin, les cinquièmes larmes sont les larmes de douceur, répandues avec grande suavité. Faut retenir que Sainte Catherine de Sienne, c'est une humble familière des grands mystères. C'est comme ça qu'elle apparaît à ses contemporains qui sont ébahis, puis à toute la postérité depuis des siècles. Cette petite siennoise, qui, de basse extraction, même si son père faisait pas mal d'argent, c'était un teinturier, elle parlait une langue un peu joualisante, peut-on dire, n'est pas passée par les écoles, mais elle est devenue porte-parole de Dieu auprès des papes. Pour annoncer, préciser et actualiser la bonne nouvelle, Jésus, fils d'un artisan charpentier, 13 siècles après son incarnation, choisit la fille d'un artisan teinturier. Cet élu comprend et accomplit sa vocation. « Je suis venu sur terre pour porter remède au grand scandale, » dit-elle. Catherine de Sienne est tertiaire dominicaine. C'est une mantellata qui n'est nullement une isolée, mais elle est l'héritière de la lignée des pieuses femmes, généreusement de spiritualité bénédictine ou cistercienne, dont, étrangement, le rayonnement historico-mystique a enrichi l'Église à cette période. Pensons à Saint-Hildegard de Bingen. Mon Dieu, Sainte-Gertrude-la-Grande, Delfta. Puis à Mechtilde Magdebourg. Puis, deux contemporaines, la Brigitte Sénéchal de Suède, morte en 1373. Puis, maintenant, finalement, Catherine de Sienne, qui travaille avec elle à la grande cause du retour de Rome à la paternité, à la papauté. Alors, au milieu de cette bande, si on peut dire, de prophétesse, quelle est donc l'originalité de cette dominicaine laïque qu'est Catherine de Sienne? Sa spiritualité joint les exigences intellectuelles de saint Thomas, la tendresse de saint Bonaventure. De plus, elle propage le rosaire, elle suscite une religion joyeuse, elle est active, contemplative, et nombre de commentateurs l'ont comprise souvent si mal. Il y a des lecteurs un peu trop pressés, comme Henri Bremont. Dans son Histoire littéraire du sentiment religieux en France, il ose écrire « Je préfère Madame Macari, devenue la carmélite Marie de l'Incarnation. » C'est pas la nôtre dont je vais vous parler demain, c'est une autre Marie de l'Incarnation. Il la préfère à Catherine de Sienne, qu'il dit pâmée entre les bras de ses compagnes. C'est un jugement aussi sommaire et mal fondé. Me semble c'est ridicule, c'est injustifiable. On la voit parcourir la France et l'Italie. D'ailleurs, Comme l'a montré un grand critique, la petite grande Sainte-Catherine, n'est-ce pas, prend appui sur Jésus seul. Hein? Est-ce qu'elle serait d'une sensibilité féminine maladive, comme on dit souvent? Celle dont le leitmotiv demeure « Io voglio »,« Je veux ». Elle est, c'est une femme décidée, hein, par pur amour et en une épouse mystique de Jésus, elle goûte à longueur de vie la tribulation, les problèmes, et elle ne s'en plaint pas. Celle qui patiemment recoue sans cesse, on peut dire, le manteau de l'Église qui est déchiré par le schisme, est-ce qu'elle serait malade? Pas vraiment. Car loin de se pâmer, comme dit Henri Bremont, au milieu de celle qu'elle entraîne, elle compatit, Catherine de Sienne, puis elle travaille activement avec les meilleurs chrétiens de son temps. C'est une sainte qui est profondément touchante et admirable. Je ne vois pas comment on peut la blâmer et la considérer comme quelqu'un d'un peu étrange et plus ou moins à rejeter. Catherine de Sienne, donc docteur de l'Église, nommée docteur de l'Église par Paul VI. On peut prier 15 jours avec Catherine de Sienne. C'est publié chez Nouvelle Cité, c'est récent ça. C'est écrit par Chantal van der Planck et André Knokert. Et c'est pas cher, c'est des petits livres. Prier 15 jours avec Catherine de Sienne chez Nouvelle Cité. Il y a l'ancien livre qui n'est plus publié malheureusement de Sigrid Undset, cette convertie qui a écrit la vie admirable de Catherine de Sienne.